premier épître de Pierre, et ça se trouve à la page 800 pour ceux qui veulent suivre.
Merci Josias. Donc en effet, je vous invite à garder vos Bibles ouvertes ou à trouver la page 799. Et je vais prier d'abord. Merci notre bon Père Céleste de ce que tu ne nous as pas laissé dans l'ignorance, mais tu nous as donné ta parole. Cette parole qui nous éclaire, qui nous édifie, qui nous équipe pour le service. Merci pour cette parole qui nous a fait naître de nouveau, qui nous a donné la vie, qui nous a conduit à Jésus. Merci pour cette parole qui nous fait grandir en Jésus. Et Père, nous voulons te demander ce matin de nous faire grandir par ta parole. Parle-nous. Nous avons besoin de ta parole ce matin. Éclaire-nous par ton esprit, nous t'en prions, au nom de Jésus. Amen. Voilà donc 1 Pierre, chapitre 1, et nous allons lire donc à partir du verset 22, donc pardon, c'est à la page 800, donc le verset 22. Vous avez purifié votre âme en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère. Aimez-vous donc ardemment les uns les autres d'un cœur pur. En effet, vous êtes nés de nouveau non pas d'une semence corruptible, mais d'une semence incorruptible, grâce à la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute créature est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur des champs. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur subsiste éternellement. Cette parole est justement celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Débarrassez-vous donc de toute méchanceté et toute ruse, de l'hypocrisie, l'envie et toute médisance. Et comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait pur de la parole. Ainsi, grâce à lui, vous grandirez pour le salut, si du moins vous avez goûté que le Seigneur est bon. Jusqu'ici la parole de Dieu. Bon, ce matin, nous allons parler de notre vie d'église et notre vie d'église en tant que famille spirituelle. La famille, c'est une de ces images où l'une des images les plus importantes dans la Bible pour l'Église. Cette image métaphore de la famille renvoie à quelque chose de très important, de très basique, quelque chose d'important qui est vraiment essentiel pour chacun de nous. Nous sommes tous nés d'un père et d'une mère, que nous les ayons connus ou pas. Et ce fait structure à la fois la société, et aussi notre identité profonde, notre compréhension de qui nous sommes. Nous avons tous hérité des gènes, et nous avons tous grandi aux côtés de nos parents, soit biologiques, soit adoptifs, et nous avons appris à les imiter. Moi, j'ai les yeux de ma mère, mais j'ai aussi plein d'habitudes, parfois un peu bizarres, de mon père, que j'ai appris de mon père. Ceci dit, parfois, on a du mal à savoir qu'est-ce qui vient de nos gènes, de notre héritage biologique, et qu'est-ce qui vient simplement des habitudes, qu'est-ce qu'on a appris par notre éducation. En tout cas, notre vie familiale est très importante, et elle nous marque beaucoup plus qu'on ne le pense. Et ce matin, nous allons parler de la vie familiale de l'Église. Nous allons parler de nos gènes spirituels et de notre éducation chrétienne dans la famille de l'Église. Alors nous avons déjà vu dans cet épître que Dieu est notre Père. C'est lui qui nous a choisis, qui nous a fait naître de nouveau par la résurrection de son Fils, de notre frère, Jésus-Christ. La semaine dernière, dans le passage d'avant, Pierre nous a parlé de notre relation avec notre Père. Pierre nous a appelés en tant qu'enfants obéissants à imiter la sainteté de notre bon Père céleste, le craindre avec une crainte respectueuse. Notre Père est saint et juste. Ce Père saint et juste, loin de nous détester, nous aime. Il a donné son Fils unique à la croix pour que nous puissions le connaître. C'est par le Fils que nous mettons en effet notre confiance en le Père. C'est grâce à la résurrection de Jésus que nous pouvons espérer en Dieu. La foi chrétienne nous a donné une nouvelle vie en famille. Et c'est une bonne nouvelle. Quels que soient les parents que nous avons eus, bons ou mauvais, nous avons un Père céleste qui nous aime. Il est saint, il est juste, mais grâce à notre grand frère Jésus-Christ, nous pouvons l'appeler Père et venir dans sa présence avec foi et espérance parce que ce Père nous aime. Et ce matin, Pierre continue de nous parler de notre relation familiale. Si Dieu est notre Père, nous avons également une nouvelle fratrie aussi en Jésus. Nous qui sommes à lui, nous sommes frères et sœurs ensemble. Et Pierre, dans ce passage, parle de ce que nous vivons déjà, ce que nous vivons même ce matin, ici, en Église, la réalité de la famille de Dieu réunie. Nous avons tous besoin de cette nouvelle fratrie. Nous avons vu ces dernières semaines dans cette lettre que nous ne sommes plus chez nous sur cette terre. En Christ, nous sommes devenus des expatriés, des voyageurs étrangers, qui ont un passeport différent de ceux qui nous entourent, qui ne connaissent pas le Seigneur. Et comme nous allons voir dans la suite de cette lettre, ce n'est pas toujours facile d'être différent. Si on nage à contre-courant, ça peut être fatigant, lassant, pénible. Et les premiers lecteurs de cette épître en savaient quelque chose. Dans la souffrance, l'Église, la famille de Dieu est primordiale. Et pas que dans la souffrance. Elle est primordiale, point barre. Parce que Dieu aime son Église. Le plan de Dieu pour l'évangélisation du monde, c'est l'Église locale. Le plan de Dieu pour votre maturité en Christ, c'est l'Église. Dieu montre sa gloire, sa sagesse, en établissant un peu partout sur la surface de la terre des églises locales. Certes, fragiles à bien des égards, mais glorieuses. Des églises nées de l'Évangile, transformées par l'Évangile, porteuses de l'Évangile. Et chaque église, on va le voir ce matin, est une famille. La vie chrétienne ne se vit pas de manière solitaire, elle est fondamentalement une vie de famille. La première chose que nous allons voir dans ce passage, c'est le premier grand commandement de l'apôtre Pierre dans ce passage, c'est que l'Église est une famille qui s'aime de manière radicale. L'Église est une famille qui s'aime de manière radicale. Est-ce que vous voyez ça dans le commandement de Pierre au verset 22 ? Vous avez purifié votre âme en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère. Aimez-vous donc ardemment les uns les autres d'un cœur pur. On va revenir à la première partie de la phrase un peu plus tard, mais je veux que nous méditions sur cette nouvelle vie familiale extraordinaire. Pierre parle d'un amour extraordinaire. L'amour fraternel doit être sincère, ou littéralement sans hypocrisie, sans masque. Pierre ne veut pas que nous fassions semblant, mais que nous aimions vraiment nos frères et sœurs. Alors Pierre ne dit pas que cet amour est un amour sentimental, hollywoodien, ou qu'il faille avoir des sentiments de bonheur lorsqu'on voit nos frères et sœurs. C'est bien si on les a. Mais on voit ici que c'est un choix radical. Aimez-vous les uns les autres. Choisissez de faire ça. C'est ainsi que vous allez manifester votre nouvel ADN spirituel, familial. L'apôtre Jean avait raconté comment Jésus avait dit une fois, « À ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Cet amour fraternel n'est pas du sentimentalisme, mais du volontarisme. C'est un choix radical. Dans notre traduction, dans les Bibles blanches, Pierre parle de l'ardeur qui doit caractériser notre amour fraternel. C'est un amour fervent. En fait, il s'agit d'un amour qui se plie en quatre pour servir. C'est fort, n'est-ce pas? C'est pas juste une question de faire du bien quand on a du temps ou quand ça nous arrange. C'est un amour qui se donne de manière sacrificielle, qui va loin. Alors, personne ne dit que c'est facile, loin s'en faut. Alors, dans une église, il y a toujours des gens avec qui on s'entend très bien, avec qui on a des affinités, des personnes qui nous ressemblent. Mais on a aussi ceux qui sont un peu différents, qui sont parfois un peu difficiles, un peu râleurs, qui ne sont peut-être pas aussi rapides que ça d'aimer en retour. Il y a peut-être des gens qui, de manière naturelle, on a envie d'éviter un peu, éviter que nos regards se croisent ou si on les voit dans la semaine au supermarché ou ailleurs, on a tendance à nous cacher un peu. Mais l'Église n'est pas juste un club de pétanque ou un parti politique. Elle est une famille qui s'aime de manière radicale. Et puis elle nous appelle un amour radical de chacun dans la famille, chacun, sans partialité. C'est un amour où on fait un effort, où on se plie en quatre pour servir. Et ça, c'est notre trait de famille, notre trait familial, notre air de famille. Pierre nous appelle à être une famille spirituelle où on s'intéresse à la vie des autres, où on prie les uns pour les autres, où on s'ouvre les uns aux autres. On réfléchit de manière intentionnelle à comment on peut faire du bien à ceux qui sont malades, isolés. À comment nous pouvons valoriser ceux dont les dons ne les placent pas forcément en vue dans l'Église. Valoriser ceux qui sont aux yeux du monde, humbles. Soyons promptes à demander aux autres comment on peut prier pour eux. Soyons promptes à nous poser la question, qu'est-ce qui pourrait être difficile pour ce frère, cette sœur, dans sa situation, peut-être dans sa situation médicale ou financière ou familiale, professionnelle. Pierre nous appelle un amour qui se plie en quatre pour nos frères et sœurs. Et ça, c'est notre trait de famille, c'est notre air de famille. Tout ça présuppose qu'on soit là, qu'on vient dimanche après dimanche. Si on est là juste de manière épisodique, quand ça nous arrange, comment est-ce qu'on va vraiment aimer nos frères et sœurs? L'Église devient juste un service à prendre ou à laisser, centré sur soi-même. Mais ce n'est pas la vision que la Bible nous donne de l'Église. La vision que la Bible nous donne de l'Église présuppose un vrai engagement. Un ministère ne serait-ce que par notre présence dimanche après dimanche. Et un ministère où on s'aime de manière radicale. Alors, est-ce le trait de notre famille, notre église ici? Alors, aucune église n'est parfaite. Mais je remercie le Seigneur pour l'amour que je vois dans l'église. Même si oui, on peut aller beaucoup plus loin, n'est-ce pas? Au verset 1 du chapitre 2, nous avons le pendant négatif de cet amour fraternel. Débarrassez-vous donc de toute méchanceté et toute ruse, de l'hypocrisie, l'envie et toute médisance. Alors, c'est une question de s'abstenir, de faire du mal à nos frères et sœurs. Et Pierre évoque des paroles qui, des termes qui où on cacherait la vérité. Où il parle de paroles qui se plaisent à détruire nos frères et sœurs, qui les rabaissent, qui les critiquent. Ce n'est pas une question de mentir, de toujours tout lisser comme si tout était parfait ou chacun était parfait. Mais c'est une question de bien examiner nos motivations. Quand je parle de quelqu'un avec quelqu'un d'autre, est-ce que mes propos sont édifiants? Imprégné d'amour pour cette personne. Est-ce que j'aide la personne avec qui je parle d'aimer cette autre personne aussi? On critique le plus souvent pour nous sentir mieux nous-mêmes. Ce n'est pas un trait de famille de l'Église de Dieu. Encore une fois, Pierre parle de l'hypocrisie. Ça, c'est le fait de faire semblant. C'est quelque chose de destructeur dans une église, dans une famille. Nous avons besoin d'être vrais les uns avec les autres. Nous ne devons pas prendre des airs. Faire semblant que tout va bien quand tout va mal. Ou faire semblant que nos vies sont parfaites. C'est une question d'être humble et vrai avec chacun. C'est un acte d'amour radical. Nous sommes tous pécheurs et faibles. Nous avons tous besoin de la grâce. Et en famille, nous n'avons plus besoin de nous cacher. Nous pouvons reconnaître nos fautes et nous avons tous des fautes. Nous avons tous énormément de progrès à faire. Oui, il faut faire ça de manière appropriée. L'Église n'est pas un simple étendoir pour notre linge sale. Certains ne sont pas capables de supporter certaines confidences. Dans les relations hommes-femmes, ce n'est pas toujours bien séant de partager certaines choses. Et lorsqu'on partage, on le fait en nous tournant vers le Seigneur avec une pleine confiance en sa grâce. Et on ne le fait pas non plus pour parler de nous-mêmes tout le temps. Mais c'est vrai que quand on s'ouvre, ça aide l'autre à dire « Ah oui, moi aussi j'ai du mal avec ça. » Ou « Moi aussi j'ai du mal avec autre chose. Est-ce qu'on peut peut-être prier ensemble pour ça ?» Moi, je remercie le Seigneur pour l'Église. Je pense qu'on est une famille qui s'ouvre, qui s'entraide de cette façon. Alors, c'est souvent très discret. C'est souvent à force de bien connaître les gens qu'on voit qu'en effet, il y a des gens qui prient ensemble, qui s'entraident. Mais c'est vrai, on a bien besoin de faire des progrès aussi dans ce domaine. Moi, j'ai besoin de faire des progrès dans ce domaine. C'est indéniable. L'amour radical qui se plie en quatre pour nos frères et sœurs est notre air de famille. C'est l'air de famille de chaque église chrétienne authentique. C'est comme ça que nous obéissons à notre Seigneur. En aimant nos frères et sœurs, nous aimons notre Seigneur. Et si nous voulons grandir en tant que disciples de Jésus-Christ, bah c'est en aimant l'église locale, c'est en aimant nos frères et sœurs. Alors Pierre a peint un tableau bellissime, mais personne ne prétend que c'est facile ou qu'on est arrivé. Aucune vie de famille n'est facile. En effet, qu'est-ce qui nous permet de vivre comme ça? Qu'est-ce qui fait que l'Église est différente d'un autre rassemblement d'êtres humains? Une entreprise, un club, un parti politique, un cercle d'amis? D'où viennent la puissance, la présence d'esprit, la volonté, l'énergie pour vivre un tel amour radical? Alors dans ce passage, Pierre est venu rappeler les fondements de cet amour, de cette vie de famille si radicalement différente. Et c'est vrai, on a besoin de nous rappeler notre héritage, ses fondements, si on va continuer à vivre ces traits de famille. Nous sommes à ce deuxième point. Donc Pierre nous dit que nous sommes avant tout une famille qui est née de la parole vivante, permanente de Dieu. C'est notre deuxième point. Une famille née de la parole vivante de Dieu. En effet, la parole est partout dans ce passage. On voit plusieurs synonymes pour la parole. La vérité, la semence, le lait. Et c'est vrai, on ne peut pas comprendre la vie chrétienne, on ne peut pas comprendre la vie d'Église si on ne voit pas le rôle de la parole là-dedans. Alors, il y a deux fondements que Pierre veut mettre en avant. Au verset 22, Pierre explique les choses de notre point de vue, du point de vue de ce qu'on a fait nous. Il parle du moment où on est devenu chrétien. Il parle de la conversion. Et au verset 23, Pierre parle de la conversion du point de vue de Dieu, en l'appelant une nouvelle naissance. Et dans ces deux fondements, la parole est omniprésente. Au verset 22, la raison pour laquelle Pierre peut nous appeler à aimer nos frères et sœurs avec un amour qui se plie en quatre pour servir, c'est parce que nous avons donné nos vies à Jésus-Christ. Le mot qu'il utilise est le mot purifier. Et c'est ce qu'on faisait dans l'Ancien Testament pour consacrer quelque chose à Dieu. Et nos vies ont été consacrées à Jésus-Christ. Comment? Verset 22, par l'obéissance à la vérité. À savoir, par l'obéissance à l'évangile de Jésus-Christ. Cette vérité, c'est la parole de l'évangile. Un chrétien est fondamentalement quelqu'un qui s'est soumis à l'évangile, qui l'a cru. Pour le croire, ça présuppose l'humilité. Nous avons dit dans cette formation il y a 10 jours que la repentance et la foi vont toujours ensemble. On ne peut pas nous repentir sans avoir la foi en Christ et vice-versa. Un chrétien est fondamentalement quelqu'un qui s'est soumis à l'évangile, qui en toute humilité l'a cru. Il s'est reconnu pécheur, qui a besoin de la grâce, qui a besoin d'un sauveur. Un sauveur qu'il a reconnu en Jésus-Christ, le Seigneur. Il s'est agenouillé devant lui et par la foi, il s'est accroché à lui. C'est l'obéissance à l'évangile. C'est un acte de capitulation où on se détourne de notre ancienne vie de rebelle, où on se tourne vers le Seigneur, le Roi, celui qui est juste et bon. Et Pierre nous dit que le fait d'avoir capitulé devant le roi Jésus nous conduit à l'amour fraternel. Elle nous y conduit parce qu'elle nous a donné un cœur nouveau. Cet amour sincère vient d'un cœur pur. Est-ce que vous voyez ça au verset 22? C'est à la fin du verset 22. C'est la source de cet amour fraternel sincère. Et ce cœur est pur parce que l'esprit... Par l'Esprit, il a été né de nouveau, radicalement changé. C'est Dieu qui a fait ça. C'est ce que Dieu a fait en nous par sa parole, au moyen de l'Esprit. Est-ce que vous voyez ça au verset 23? En effet, vous êtes né de nouveau, non pas d'une semence corruptible, mais d'une semence incorruptible, grâce à la parole vivante et permanente de Dieu. L'Esprit de Dieu, par la parole de Dieu, nous a fait entrer dans la famille de Dieu. Nous n'étions pas capables de le faire nous-mêmes, mais c'est lui qui l'a fait. Cette parole, nous le voyons à la fin du verset 25, est justement celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Par la semence de l'Évangile que nous avons entendue et crue, Dieu nous a fait entrer dans sa famille. Dieu nous a donné un nouveau cœur. Cette parole est puissante et efficace. Cette parole n'est pas éphémère, mais elle dure. Cette parole de grâce nous a fait entrer dans la famille de Dieu de manière permanente. Nous sommes pour toujours dans sa famille. Et nous sommes frères et sœurs pour toujours grâce à Dieu, grâce à cette parole de l'Évangile. Alors comment est-ce que cette nouvelle naissance nous conduit à l'amour radical? Cette parole nous change, cette parole qui nous change, nous donne une nouvelle perspective. Elle nous montre que nous sommes bel et bien des frères et sœurs en Jésus-Christ, des frères et sœurs du même Père, qui bénéficient de la même grâce. Elle nous montre que nous avons le même grand frère. Elle nous montre que nous ne sommes pas meilleurs que d'autres, mais que nous sommes tous les objets de sa grâce épatante, de cette grâce imméritée. Et nous discernons en nos frères et sœurs des enfants que Dieu lui-même a aimés d'un amour éternel. Nous nous aimons les uns les autres parce que nous sommes à lui. Ensemble, nous sommes les siens. Nous reconnaissons en nos frères et sœurs l'air de famille. Et puisque nous aimons notre Père qui nous a aimés, nous les aimons en retour. Et c'est pour ça que l'Église n'est pas un club. Elle n'est pas un parti politique, elle n'est pas simplement un cercle d'amis. Mais elle est fondamentalement la famille de Dieu. La famille de Dieu qui s'aime de manière radicale. Parce que Dieu nous a aimés tous de manière radicale. Et ça fait partie de notre nouvel ADN. Mais nous avons besoin de nous en souvenir. de nous rappeler ce que Dieu a fait. Voici le fondement qui nous permet d'aimer de manière radicale. Alors si vous êtes là ce matin et vous avez eu un peu de mal avec l'idée d'un amour radical pour vos frères et sœurs, si peut-être l'envie vous manque, si vous constatez que loin de les aimer, vous êtes plutôt dans la médisance ou dans la critique, la jalousie, est-ce que je peux vous inviter à revenir à Christ ? Ou peut-être à venir à Christ pour la première fois, à vous agenouiller devant lui, dans la repentance, à vous accrocher à Jésus seul, à lui qui pardonne, à lui dont le sacrifice sur la croix est suffisant pour nous pardonner. Demandez à Dieu en toute humilité de vous accorder cette nouvelle naissance, cette obéissance à l'Évangile. On voit à plusieurs reprises dans les Écritures que Dieu promet de faire grâce aux humbles. C'est ainsi qu'on goûte à sa bonté. Et celui qui goûte à sa bonté a envie de montrer cette bonté à ses frères et sœurs. Pierre continue et à la fin de ce passage, il nous montre un autre rôle important de la parole. Si on est né de la parole, où on goûte à la bonté du Seigneur, à la grandeur de sa grâce à notre égard, nous grandissons, nous croîtrons aussi par cette même parole, par ce même évangile. Le verset 2 du chapitre 2 nous dit « Et comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait pur de la parole. Ainsi, grâce à lui, vous grandirez pour le salut. » C'est notre troisième point ce matin. Nous sommes une famille qui grandit par la parole. Et c'est le deuxième grand commandement de ce passage. Désirez le lait pur de la parole. Dans cette famille, nous sommes tous des enfants. Alors, contrairement à l'apôtre Paul, qui utilise cette métaphore des enfants et du lait pour dire qu'il faut grandir, il faut devenir adulte, il faut passer à la viande. Pierre s'en sert de manière positive. Nous faisons partie de la famille et dans la famille, nous sommes tous des enfants. Nous serons toujours des enfants et nous boirons toujours ce lait. Cette parole est le lait dont nous avons besoin. Je suis sûr que cette illustration est très parlante pour les mères ici présentes ce matin. Les nouveau-nés désirent du lait, ça va de soi. Et c'est un désir qui revient constamment, qui doit être assouvi, sinon le bébé commence à hurler. Et ces bébés grandissent vite. Alors Pierre ajoute à la fin, « Si du moins vous avez goûté que le Seigneur est bon. » Il cite un psaume. Mais il se réfère bel et bien à Jésus. Si vous avez goûté que le Seigneur Jésus est bon. Parce que cette bonté, comme nous avons vu, commence au pied de la croix. Avec la grâce, dans la repentance et la foi. C'est là que nous goûtons à la libération de la grâce, à l'amour que Dieu verse dans nos cœurs. Et ça nous donne une envie. Ça nous donne envie d'avoir plus. Alors si on veut grandir dans la foi, il nous faut plus de ce même évangile qui nous a conduit à Jésus au début. Il s'agit d'un lait pur. Pierre parle de la bonne doctrine, de la saine doctrine. C'est une question d'alimenter cette affection que l'Esprit a mise dans nos cœurs, de soupirer comme une biche après l'eau qui peut étancher notre soif. Pour grandir, Pierre ne parle pas d'abord de la discipline ou de la prière ou du service, mais il parle de la parole, le même plat qu'on a reçu au début de la vie chrétienne. Si nous voulons être mûrs, si nous voulons grandir dans cet amour radical pour nos frères et sœurs, nous avons besoin de revenir sans cesse à cet évangile. En fait, c'est un cercle vertueux. Cette parole nous fait grandir dans la connaissance de Dieu, de sa justice, de sa sainteté, de son amour, de sa grâce. Elle nous fait espérer en lui. Elle parle de notre vie de famille, devant le Père, entre frères et sœurs. Elle nous parle de ce que Dieu a fait pour nous, ce que Dieu a fait pour nos frères et sœurs, de toutes les richesses de ce qu'il a fait. Du coup, l'air de famille prend tout son sens. Nous nous reconnaissons comme ceux et celles qui, par la grâce seule, en vertu de Jésus seul, sont à lui ensemble pour l'éternité. Et l'amour fraternel en est ainsi ravivé. Nous vivons une époque où nous pouvons lire la Bible chez nous, à la maison, chacun. Nous pouvons tous mettre de côté un peu de temps dans la journée pour méditer sa parole. Et je ne peux que vous encourager à faire ça dans la semaine. Pourquoi ne pas en parler entre vous, après le culte, aujourd'hui, de comment, ce que vous apprenez en ce moment dans vos lectures quotidiennes ou quelque chose comme ça. Nous pouvons également étudier la parole en petits groupes. Et puis, en semaine, il y a des ateliers bibliques, des groupes de maison à l'église. Donc, si vous voulez être membre d'un tel groupe, venez me voir après le culte. Mais le moment principal d'enseignement biblique pour les lecteurs de cette lettre était probablement la rencontre du dimanche matin. La parole en est goutte semaine après semaine, en église, ensemble devant Dieu. Nous entendons ce qu'il nous dit en tant que famille. C'est sa parole familiale, paternelle. Et c'est un événement familial. Nous sommes tous ensemble pour l'écouter, comme nous faisons ce matin. C'est le grand plat de la semaine, le festin de la semaine, le moment où on se nourrit ensemble. Et nous en avons besoin. C'est important pour moi, pour ceux qui enseignent la parole à l'Église, de le comprendre comme ça. Ça nous montre l'importance de ce moment d'enseignement. L'importance de bien préparer, de bien creuser le passage en question, le besoin critique d'être fidèle, de donner du lait pur. Ce n'est pas juste un moment spi, un moment de méditation, mais c'est vraiment un festin qui nourrit, sans lequel on meurt de faim, sans lequel on s'éloigne du Seigneur et notre amour radical diminue. C'est un festin qui nous montre tout à nouveau la grandeur de notre Dieu, sa pensée. C'est un festin qui nous permet de goûter tout à nouveau à sa bonté. Et ainsi, petit à petit, grandir pour le salut, grandir dans la maturité, grandir dans l'amour radical. Alors, est-ce que vous voyez le dimanche matin de cette manière-là? Pierre nous exhorte à désirer ce lait pur. Notre croissance en dépend. Et notre amour radical les uns pour les autres en dépend aussi. Je vous invite à la prière, on va demander à Dieu, en effet, de nous aider à nous aimer les uns les autres de manière radicale. Et nous aimer et nous aider à avoir cette envie, ce désir de sa parole. Prions. Notre bon Père Céleste, merci pour l'Église. Merci pour nos frères et sœurs. Merci pour l'air de famille qui est bien là. Merci de ce que nous pouvons venir d'horizons très différents, d'arrière-plans très différents, et nous aimer les uns les autres parce que nous sommes à toi. Merci de ce que tu as fait dans nos vies. Merci pour cette nouvelle naissance que tu as effectuée par la parole. Notre Père, nous voulons te demander de nous aider à ne jamais oublier ce que toi tu as fait, de ne jamais oublier qui nous sommes devenus en Christ, la famille que nous sommes devenus en lui. Et Père, donne-nous de désirer encore plus cette parole qui nous montre qui tu es, qui nous montre qui nous sommes ensemble devant toi. Et donne-nous de nous aimer les uns les autres avec un amour sincère, sans hypocrisie, avec un amour sincère qui se donne, qui se plie en quatre pour servir. Père, nous avons besoin de ta grâce, nous avons besoin de l'œuvre de ton esprit par la parole dans nos vies. Nous t'en prions, au nom de Jésus. Amen.